Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical Tendance Confidence, avec aujourd'hui les confidences de musiciens et également de chanteuses pour cet épisode de Tendance Confidence avec Gaëtan Jarry qui est organiste et qui fait résonner telle des symphonies différentes notes de son instrument qu'est l'orgue. Mais pour l'instant, place aux cordes vocales avec deux chanteuses, Gabriella ainsi que George Jonathan. Nous commençons avec vous. Lorsqu'on vous parle de confiance, George Jonathan, puisqu'il en faut un peu lorsqu'on est sur scène, que vous évoque ce mot de confiance en tant que chanteuse?
Je pense que le plus important, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir foi en soi, parce que c'est le départ de tout. Si on n'est pas bien avec soi-même, on peut jamais être bien avec quelqu'un. Il y a des bonheurs qui sont évidemment réels, parfois c'est des illusions, mais je pense que l'essentiel dans la vie, c'est de se sentir bien. Donc même si parfois on a l'impression de vivre dans un palais alors qu'on est dans une cabane, c'est très bien. Cette illusion-là, c'est une bonne illusion.
Et est-ce qu'il est difficile de trouver l'équilibre entre les moments où vous êtes sur scène devant plusieurs centaines de personnes et de vous retrouver en studio ou parfois seul pour écrire des textes?
Entre chaque album, c'est assez compliqué parce que les gens pensent que quand on nous voit pas à la télé, on n'existe plus. C'est pas parce que je suis pas sans cesse à la télé, parce que je prépare aussi quelque chose d'autre que je n'existe pas pour autant. Enfin, moi, je suis beaucoup livrée à moi-même, j'écris et je compose. Donc même si je travaille souvent avec d'autres gens, il faut réussir à trouver un équilibre. Mais je pense que dans tous les métiers, il faut trouver un équilibre, enfin dans toutes les vies, quoi.
Est-ce que le silence est une dimension qui vous fait peur ou est-ce que c'est au contraire une belle musique que le silence?
Ah non, je trouve que c'est très très beau. En fait, le silence, ça permet de repartir et d'entendre certaines choses. Et justement, il y a une chanson qui s'appelle « Nos secrets ». Et dans cette chanson, je dis que je choisis souvent le silence pour dire ce qu'il y a de plus fort. Et parce que je pense qu'il y a des mots qui sont durs à dire par pudeur et que le silence, ça permet aussi de parler sans les mots.
Alors le langage peut aussi se traduire en action puisque Joss Jonathan, vous êtes également sensible au monde associatif et vous y êtes vous-même engagé.
Oui, alors j'ai accompagné la Maison de TED, qui est une association qui travaille avec les autistes. J'ai accompagné différentes associations et effectivement ça me touche. Après, il faut aussi faire des choses qu'on ressent parce que toutes les causes sont forcément touchantes parce que c'est des éléments qui traite de la vie et qu'on a envie de s'entraider tous, mais forcément on n'a pas le temps de tout faire dans la vie et moi j'avoue que je suis particulièrement sensible à l'enfance et ça me touche beaucoup parce que c'est à ce moment-là qu'on se construit et qu'on détermine un peu sa vie, quoi.
Un très beau nom d'association aussi à Ho Chi Minh, Poussière de vie. J'avais rencontré un astrophysicien qui me parlait de poussière d'étoiles. Entre poussière d'étoiles et poussière de vie, il y a quelque part des relations aussi.
Oui, voilà, tout à fait. Poussière de vie, c'était une super expérience parce que c'est pour en fait la réinsertion à la fois d'enfants et de leurs parents qui ne travaillent pas, des enfants qui sont trouvés dans la rue, mais qui ont besoin d'une éducation, d'un toit, évidemment. Et donc c'est une association qui va chercher ces enfants dans la rue, qui permet à leurs parents, à leur maman de travailler dans le même établissement d'ailleurs que l'école, et les enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, à vivre, quoi.
Et comment trouver l'équilibre entre la vie de chanteuse et la vie personnelle?
J'adore voyager, j'adore faire des concerts et vraiment. Mais après, c'est sûr que dans les rapports intimes, on a toujours peur d'être blessé quand on se montre vraiment tel qu'on est, parce que forcément, après, on est plus vulnérable. Il y a une idée que j'aime beaucoup, qui est dans la chanson d'Axel Red, Parce que c'est toi, où elle dit Parce que c'est toi, le seul à qui je peux dire qu'avec toi, je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi, et non pas parce que c'est le moment, en gros. Donc, je résume. Et elle dit que voilà, c'est vrai qu'il y a tellement de sentiments qui peuvent être influencés par ce qu'on projette et ce dont on a envie au moment où on rencontre quelqu'un, qui sont pas liés à la personne, mais à ce qu'on ressent nous dans notre propre vie. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau d'aimer quelqu'un pour vraiment ce qu'il est et pas se dire que c'est lié à un moment.
Le titre de cette émission, c'est « Au cœur de la vie » que vous inspirent ces deux mots-clés, cœur et vie.
Le cœur bat pour la vie, pour qu'on se sente vivant et pour faire battre son cœur, pour vivre des belles choses, voilà.
Continuons d'écouter quelques confidences avec une autre chanteuse qui vient du Québec avec un très bel accent qui s'appelle Gabriella, rencontrée aussi au Tendance Live à Granville en 2018. Et je lui ai posé cette question, pourquoi la composition musicale était toujours aussi importante pour elle?
De composer des chansons, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça permet vraiment d'évacuer toutes les émotions. Puis moi, ce que j'aime, c'est de travailler en équipe aussi, d'être en studio, un peu d'avoir cette tension de vouloir composer quelque chose et après un relâchement immense lorsqu'on a l'impression de trouver quelque chose qui va un peu changer une carrière. Après, j'adore aussi le live, c'est ce que j'aime le plus, faire des concerts, puis ça permet vraiment de rencontrer plusieurs personnes. Puis moi, c'est vraiment un privilège d'être dans un autre pays aussi, puis d'absorber toute cette nouvelle culture.
Et vous jouez également du violon. Il est commun de dire que le violon permet de restituer d'une manière assez fidèle les émotions humaines.
C'est sûr que le violon reflète vraiment l'âme d'une personne parce qu'on peut tellement faire des choses différentes avec le violon. On peut l'exprimer dans un feu de joie. On peut jouer des chansons mélancoliques. Puis tout est vraiment relié aux sensations corporelles.
Deux instruments portatifs, vos cordes vocales puisque vous êtes chanteuse et puis les cordes de votre violon qui vous accompagnent dans vos différents déplacements sur scène. Une harmonie délicate à trouver entre les deux.
Ça fait quand même, depuis que j'ai 6 ans que je travaille très fort, mon rêve c'était de devenir une violoniste. Finalement, ça a totalement échoué. Je suis devenue auteur-compositeur, puis finalement je prends le violon. Mais c'est sûr que la combinaison des deux, j'adore. Puis en plus de ça, c'est pas très lourd à transporter en voyage, les cordes vocales et les cordes du violon.
Un travail exigeant et qui suppose beaucoup de répétitions et aussi un travail exigeant que de révéler la musique intérieure de l'instrument et aussi votre musique intérieure, Gabriela.
Tous les jours, j'ai l'impression que je dois apprivoiser cet instrument-là, dépendant de l'humidité, dépendant de l'émotion du violoniste, dépendant de tout. Des pays, l'instrument change constamment. C'est très intéressant. J'ai un petit peu une relation d'amour-haine avec cet instrument parce que si je le délaisse pendant 4 jours, je dois rattraper pour vraiment être en forme musicalement. Alors, je dois toujours le traîner près de moi, de l'explorer tous les jours. Ce qui est intéressant et délicat, c'est le cas de le dire, c'est que plus t'apprends avec cet instrument puis avec la musique, plus tu te rends compte que tu vas jamais atteindre la perfection puis il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est assez déstabilisant puis en même temps, ça donne un but clair dans la vie. Alors c'est un travail, un combat de tous les jours puis un combat que j'apprécie énormément puis qui me permet de faire des belles rencontres comme ce soir. Mais voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir à Tendance Ouest.
Suite de votre magazine Tendance Confidence, Couleur Musique, aujourd'hui, après le Tendance Live qui a eu lieu à Granville, vous avez pu réécouter les confidences de Joe Jonathan et de Gabriela qui étaient présentes à ce rendez-vous en 2018. Là, nous allons parler musique avec un instrument particulier qui est l'orgue avec Gaëtan Jarry. Bonjour.
Bonjour.
Lorsque vous étiez enfant, par quoi étiez-vous le plus passionné? Devenir organiste ou chef d'orchestre?
Donc moi, je suis organiste et j'ai l'impression d'avoir toujours fait de l'orgue parce que j'étais les fesses sur un banc d'orgue dès mon plus jeune âge parce que mon père jouait l'orgue à la messe. J'étais vissé sur le banc parce que j'étais peut-être un peu turbulent pendant la messe et c'était là que j'étais le plus sage. Alors j'adorais le dimanche regarder, un peu toucher les boutons, de temps en temps ça devait s'entendre. Et puis diriger un orchestre parce que pareil, depuis mon plus jeune âge j'ai n'importe quoi dans la main qui me faisait office de baguette et je passais ma vie à avoir de la musique dans la tête et à la diriger, même dans la cour de récré souvent on se fichait de moi parce que je déambulais en faisant le chef d'orchestre.
Gaëtan Jarry, si vous aviez à écrire la partition musicale de votre vie, quel en serait le rythme?
Si je faisais la photographie du rythme actuel de ma vie, on serait sur un allegro très très vivace même. Parce que c'est un petit peu effréné en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de projets. Et là, cette semaine sort aussi un disque d'orgue, de concerto pour orgue de Handel avec orchestre, et donc avec Marguerite Louise aussi, que je dirige en jouant de l'orgue.
Et en tant que musicien, pouvons-nous parler de fausses notes lorsqu'on parle d'une vie?
Une fausse note, n'est pas rédhibitoire, ni dans la musique, ni dans la vie. Une fausse note, c'est le propre du concert, donc du spectacle vivant, donc de la vie. Et une vie sans fausse note, ça n'existe pas.
Les touches et les notes ont-elles toujours été le prolongement de vos doigts?
Pas que les touches et les notes. J'ai aussi une petite tendance à la batterie, instrument auquel je m'adonne régulièrement depuis aussi ma tendre enfance. Et alors, quand mes doigts ne remuent pas pour s'imaginer un clavier, souvent il tapote.
Des doigts pour écrire, des doigts pour peindre, pour jouer, pour diriger un orchestre.
Absolument.
Une œuvre d'art déjà que votre corps et que les doigts.
Oui, le corps du chef est en mouvement. Le mien, je veux dire un petit peu particulièrement parce que je suis assez plutôt expressif en dirigeant. Certains me taxent de gesticulateur, d'autres plutôt de danseur. Et c'est vrai que, alors souvent je dirige de l'orgue positif. Donc, imaginez un petit orgue que l'on place devant l'orchestre. Donc, mes mains sont prises. Alors, il faut que le reste du corps soit mis à contribution. Donc, ça le fait onduler un petit peu plus que quand on a les deux bras libres.
Allons au cœur de la vie d'un instrument qui vous passionne aussi, l'orgue.
Oui.
C'est une passion, une révélation, un mystère que cet instrument situé entre ciel et terre, souvent au-dessus du portail d'un édifice.
Oui, il y a ce mystère parce que c'est un instrument, comme vous dites, un petit peu sur son jardin suspendu de tribune. C'est un instrument pour lequel souvent on ne voit pas le musicien qui le joue. L'organiste est caché, donc ça confine à ce mystère. Voilà, de cette masse tout à fait placide et olympienne qui vous déverse quelques flots de notes dans les oreilles, et puis qui a cette mission particulière aussi d'être vecteur entre l'homme et Dieu.
Avec ces angelots qui sont sur les buffets d'orgue.
Absolument. L'orgue, traditionnellement, dans la tradition française en tout cas, prend la place des anges. C'est pourquoi ils répondent notamment toujours au Gloria. Et c'est d'ailleurs pourquoi aussi dans la tradition de l'orgue français, on n'a pas d'orgue au credo. Parce que le credo, c'est les hommes et le Gloria, plutôt les anges. Et alors du coup, l'orgue se taisait au credo dans la musique baroque française.
Un passeur vers le sacré, que cet instrument qu'est l'orgue, une élévation ?
Toutes les missions de l'orgue au sein de l'Église sont celles de l'élévation. La première, c'est déjà magnifier la liturgie. La deuxième, c'est faire cette passerelle, ce vecteur, ce véhicule de la prière des hommes vers Dieu. Donc oui, vraiment une mission ascenseur, puis une mission de béquille aussi, quand il porte le chant. Commentateur aussi.
Et commentateur.
Commentateur de la parole de Dieu. Voilà, c'est peut-être la dernière mission de l'orgue au sein de la liturgie.
Alors comment est-ce que l'orgue peut commenter la parole de Dieu ?
L'organiste, avant de jouer, se nourrit des textes et à partir de ces textes-là, essaye de coller au plus proche, essaye de procéder à une sorte de transcription sonore des mots de la Bible, une évocation à des thèmes qui seront peut-être déjà connus du fidèle ou à des timbres particuliers ou à une ambiance particulière. On va tout faire pour essayer de coller un maximum au texte.
Est-ce que la partition sera interprétée de la même manière si nous parlons de partition de musique sacrée, si la personne est croyante ou non ?
Moi, j'ai déjà fait l'expérience d'entendre des organistes, notamment, je parle dans mon domaine, qui n'avaient que faire de leur rôle et qui étaient très très forts, qui vraiment jouaient très très bien, mais qui étaient totalement déconnectés avec leur mission spirituelle. Après, il y a plusieurs spiritualités. Il y a la spiritualité qui se rapproche de la foi de l'Église, et puis tout simplement la spiritualité qui est celle d'élever l'âme. Et pour ça, un artiste est obligé d'avoir ce petit plus s'il veut que sa musique ait une destination.
Qu'est-ce que cela vous fait de rendre présentes aujourd'hui des œuvres qui ont été écrites par des maîtres comme Bach ?
Au même titre que l'orgue est un passeur entre ciel et terre, nous sommes des passeurs de la musique de génération en génération. Cette musique écrite est vraiment conçue pour perdurer, sinon elle ne le serait pas. Vous savez, l'orgue, il y a deux facettes. Il y a aussi la part de l'improvisation prend beaucoup dans le métier de l'organiste parce que tout simplement la liturgie est mouvante, donc on doit s'adapter souvent un petit peu à la seconde près. Donc on doit s'adapter un petit peu à la seconde. Pour ça, c'est plus facile d'improviser que de jouer de la musique écrite. Et lorsque l'on joue de la musique écrite, voilà, à la fois nous sommes témoins de vraiment un patrimoine, et à la fois la musique écrite n'a pas nature à être morte. Vraiment, nous sommes là pour la faire vivre. Vous me parliez tout à l'heure du titre de la partition de ma vie. Elle pourrait s'appeler « Le souffle ».
Et j'imagine que vous êtes également sensible à un instrument portatif que tous nous possédons, à savoir les cordes vocales qui nous permettent de parler, de chanter.
À moi, s'il n'y avait pas le chant dans la musique, je ferais autre chose. Parce que on parlait du souffle et de la vie. Rendez-vous compte ce que c'est que d'avoir un instrument vivant. La voix est le seul instrument vivant. C'est extraordinaire. Et alors, pour faire revivre toutes les pages de musique, faire revivre avec la vie intrinsèque du musicien, c'est vraiment quelque chose de fabuleux.
Et dernière question, imaginons qu'il y ait un grand orgue dans l'éternité, avec qui au clavier ?
Je pense que Bach est au grand orgue. Après, il faut voir qui est à l'orgue de chœur. Moi, je veux bien être à l'orgue de chœur, juste pour avoir la chance de dialoguer avec lui.
Merci Gaëtan Jarry pour ce temps accordé à Tendance Ouest.
Merci à vous.